Et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 511 avec Jérôme Chélius à la réalisation, assisté de Lucie Spindler, ainsi que Philippe Duclos et Patrick Henry à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, centre humanitaire Paris Nord, accueil ou non accueil, et le village, la mer et les migrants.
On accueille des gens qui n'ont pas notre culture, qui n'ont pas notre langue, qui n'ont pas la même couleur. Non, puis en plus, les Soudanais sont noirs-noirs. Hein, la plupart.
Lance les dés. Dublin. On a pris de force tes empreintes dans un autre pays de l'Union Européenne. L'État français prend tes empreintes et découvre cela. Tu es dublinais. Tu nous quittes.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux la bruit qui court ?
Comme un bruit qui court, quand c'est temps troublé, ou à l'inverse des contes de fées, les chevaliers vertueux se transforment en crapauds baveux, nos concitoyens ne savent plus à qui se fier. Un dégoût politique qui se mêle à la peur et qui n'augure rien de bon. Peur de l'avenir, peur du déclassement, peur de l'étranger, si différent de nous. Les Soudanais sont noirs, noirs, nous disait à l'instant Ghislaine Baudet, maire de Pierrefitte-Esbois, un petit village du Loiret d'à peine 300 âmes, qui a accueilli en octobre 2015 les premiers migrants venus de Calais. Aux grandes dames des Pierrefittois qui s'en seraient bien passées. Et la belle histoire nous dit que tout se serait bien passé. Et comme la vie n'est décidément pas un conte de fées, c'est une toute autre histoire que Guy Vanquetil va vous raconter, car il est allé voir à Pierrefitte. Et pour ces migrants évacués de Calais, à qui on donnerait tout, nous disait la semaine dernière Sabrina, une électrice FN, la vie non plus n'est pas un conte de fées. Et la réalité de la politique d'accueil s'apparente plutôt à un jeu de loi. Pile, tu gagnes une place au chaud pour la nuit. Face, tu retournes dormir à la rue. Pile, on te renvoie là où tu es rentré. Face, tu repars dans un petit village du Loiret. Alors, pour voir vraiment comment ça se passe, on retourne cette semaine encore avec Antoine Chao au centre d'accueil humanitaire de La Chapelle. Comme un bruit qui court à La Chapelle avec les migrants et dans le Loiret avec une mère qui n'a pas peur. C'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est parti.
Antoine Chao. Charlotte Perry.
Guy Vanquetil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, la parole est maintenant à notre collègue madame Esther Benbassa pour le groupe écologiste et pour 2 minutes 30 maximum.
Merci monsieur le président, mes chers collègues. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le 7 janvier dernier, Médecins sans frontières dénonçait dans un communiqué, je cite, la systématisation des violences policières qui ciblent les centaines de migrants parisiens en errance dans la capitale. L'ONG rapportait leur harcèlement, la confiscation de leurs couvertures, l'utilisation de gaz lacrymogènes.
Là, il s'agit de rendre invisibles MSF. Les migrants autour du site de La Chapelle, de les disperser et dans le même temps de leur ôter les couvertures.
Vous avez réagi dès le lendemain, monsieur le ministre, en enjoignant chacun, je vous cite, à arrêter ce sport national de mise en cause des policiers.
Il faut arrêter ce sport national de mise en cause des policiers.
Bruno Leroux.
Il faut arrêter.
Ils ont peut-être des instructions.
Véritablement, non, ils n'ont pas d'instructions.
Vous n'avez pas réfuté, en revanche, à ma connaissance, la réalité du harcèlement plus global qui est le lot quotidien de ces populations depuis l'été 2016 à Paris.
Nous avons eu des personnes qu'il a fallu soigner du fait de cette mise en danger.
Ce ne sont pas les policiers qui sont ici en cause, ni la difficulté de leur mission quotidienne à laquelle nous rendons hommage, mais bien les politiques publiques aboutissant à ces situations inacceptables. Depuis l'évacuation du dernier campement à Stalingrad début novembre, le gouvernement a annoncé qu'aucun nouveau ne sera toléré.
Faisons en sorte d'évacuer les camps de Paris.
Soit,
parce que ça ne peut pas être une situation durable.
Qu'il faille mettre les réfugiés à l'abri, ne pas les laisser vivre dans des conditions indignes est un objectif louable, certes. Mais il semble qu'à l'heure où nous parlons, les places d'hébergement ne soient pas en nombre suffisant. Le centre humanitaire de la Chapelle, destiné à accueillir temporairement les hommes seuls, saturé, comme l'est aussi le 115. Quelle solution le gouvernement entend proposer à ces dizaines de réfugiés qui s'organisent pour tout simplement survivre dans les conditions climatiques que nous savons? Merci.
Faut arrêter.
Porte de la chapelle. Porte de la chapelle.
Terminus. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Merci.
Alors, il y a l'échelle. Qui bloquait le bout de la file.
Accueil ou non accueil, c'est le deuxième épisode de notre maraude radiophonique dans le nord-est parisien, du côté du centre humanitaire Paris Nord, ouvert le 10 novembre dernier, pour accueillir les exilés primo-arrivants. Alors que Médecins Sans Frontières a dénoncé des violences policières subies par les migrants, des confiscations de couvertures et des cas d'hypothermie, accueil ou non accueil, la question reste entière quand la demande d'asile s'apparente à un jeu de loi du non-accueil, si par exemple vous tombez sur la case Dublin. Selon le règlement européen Dublin 3, vous devez demander l'asile dans le pays responsable de votre entrée en Europe, le pays qui vous a délivré un visa et qui a pris vos empreintes digitales au passage. Bienvenue en Bulgarie, Italie, Grèce. Pour la France, c'est plus compliqué.
Faut arrêter ce sport national de mise en cause des policiers. Faut arrêter.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant là?
On est en train de faire la queue pour avoir les couvertures là. Ok? Ils nous ont amené quoi à manger? Maintenant c'est les couvertures.
Pour pouvoir passer la nuit, c'est ça?
Oui, à la rue.
Vous n'avez pas trouvé de place ici?
Oui, oui, on doit dans la rue
centre.
Tous.
D'accord.
Afghanistan, Pakistan, Tunisien, Marocain, Algérien, Libyen, Sénégal, Nigérien, Somalie, Saoudien, tout.
Afrique,
Arabe.
Et qui c'est qui fournit les couvertures alors?
Alors c'est Utopia.
Utopia.
Oui, ouais. C'est grâce à eux. Que Dieu les sauvegarde, Inch'Allah.
Il fait froid là pour dormir dehors, là vous faites.
Il fait très froid. Ouais. C'est sous le pont, voilà. Il n'y a pas cette place, il y a 400 places, c'est tout. Et nous sommes de plus. Chaque jour, ils nous ramènent des couvertures, chaque jour. La nourriture, chaque jour. C'est des bénévoles, c'est pas d'État.
Alors là, on est sous l'autoroute, sous le périph, à la sortie de l'autoroute.
Notre jaquette, blanquette.
Et la file s'allonge de plus en plus. Des réfugiés, des demandeurs d'asile qui essayent de récupérer une couverture pour pouvoir dormir au chaud.
Ah, des tentes. Maybe. We'll see.
Et donc là, vous êtes les premiers, il y a la file qui commence à s'allonger.
Oui, 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 oui. Commence à s'allonger encore. Vous allez avoir encore tout à l'heure.
On est là, nous. Porte de la chapelle. Ici, métro.
Tu peux parler avec les Afghans, voilà.
Je viens d'Afghanistan. Ça fait un mois que je suis à Paris.
Ça fait un mois que vous êtes à Paris.
Yeah. Ouais. 1 month in Paris.
Et vous avez essayé d'être accueilli ici, au centre d'accueil?
Yeah, I try, but too much people stay in.
Oui, j'ai essayé, mais il y a trop de monde dans le camp.
What can I do? Maybe
je ne sais pas quoi faire et retourner demain ou après-demain.
Sleep in the street.
Ça fait un mois que je dors dans la rue.
Et vous avez commencé les démarches pour demander l'asile?
Oui, bien sûr. J'attends l'asile. En Afghanistan, il y a trop de problèmes. C'est une catastrophe. Les talibans, Daesh, Al-Qaïda. C'est pas un endroit sûr. Et beaucoup d'Afghans sont en France et demandent l'asile.
Vous avez quel âge ?
J'ai 21 ans. J'ai besoin d'un endroit tranquille, j'ai besoin de rester en France, d'aller à l'école, d'étudier, de travailler. Je suis parti en 2012 de chez moi. Mais j'ai un gros problème, j'ai donné mes empreintes digitales en Bulgarie. Je suis dubliné. C'est un gros problème, trop de gens ont donné leurs empreintes en Bulgarie.
Et vous craignez d'être envoyé en Bulgarie alors, en tant que dubliné ?
Oui, et en Bulgarie, il n'y a rien et c'est dangereux. Pas de maison, pas de travail, pas de nourriture, rien. Je suis passé en Allemagne et ils voulaient me renvoyer en Bulgarie. Mais je ne voulais pas y retourner. Je suis venu ici en France et j'espère que tout va bien se passer. Je n'irai pas en Bulgarie ou ailleurs, je reste en France. Pourquoi ils n'abandonnent pas cette politique ? Je ne comprends pas.
Selon le règlement européen du droit d'asile, Dublin 3, vous devez demander l'asile dans le pays responsable de votre entrée en Europe. Le pays qui vous a délivré un visa et qui a pris vos empreintes digitales. Et ce pays se chargera de l'instruction de votre demande d'asile.
Et là, petit à petit, tous les réfugiés reviennent devant le centre. La distribution, c'est à une centaine de mètres en direction de la plaine Saint-Denis. Ils reviennent avec leur couverture et ils font des petites tentes de fortune autour des barrières de Vauban qui sont installées pour faire la ligne, la file, la queue. On voit des pieds qui dépassent, des couvertures de toutes les couleurs. Couvertures qui viennent d'être distribuées, qui sont encore sèches. Un grand boyau là, multicolore, qui s'allonge au fur et à mesure. Des couvertures, des tapis, pas la moindre bâche imperméable.
Kamrana.
Alors là, il nous ouvre la petite tente.
Yes. Can you speak English?
Yes, tell me. Okay, yes. Okay, alors on va parler avec quelqu'un qui est justement dans la petite tente. How are you?
No, I speak English. No, no.
Oh, you speak English.
And you staying here until tomorrow?
You stay here.
Tomorrow morning to go inside?
Yes.
Ouais, vous restez ici jusqu'à demain matin pour pouvoir rentrer in there.
What is that? Turchi did a big problem. The one that was hard to get out.
Where you come from?
Yes,
Afghanistan.
Afghanistan.
Yes.
Mm-hmm. I'm sorry, my friend.
Yes, okay.
You sleep.
Yes, okay. Ils vont commencer à dormir là. Donc là, il remet la couverture. Une petite table avec des boissons chaudes, c'est ça, devant le centre.
Donc nous, on a un collectif d'habitants qui s'est créé quand
Il y a eu un campement qui s'est installé sous nos fenêtres, enfin dans notre quartier. Puis tout d'un coup, on a vu débarquer des centaines de personnes qui sont des réfugiés. Il faisait moins 5 déjà à l'époque, c'était la première vague de froid. Et puis moi, je me suis retrouvée personnellement avec ma fille au milieu de jeunes qui étaient un tout petit peu plus âgés qu'elle. Et nous, on allait à la boulangerie. On était transi de froid parce que glagla. Et puis j'étais au milieu d'adolescents qui n'avaient pas mangé depuis 2 jours. Donc dans le quartier, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait arrêter de sortir de chez nous pour pas voir ce qui se passait en bas, faire un détour tous les jours, ou est-ce que on allait essayer de s'organiser collectivement pour essayer de faire ce que d'autres font pas, l'État, j'ai nommé là l'occurrence.
Parce que l'avenue Wilson, donc, ça jouxte le centre Paris Nord, hein, c'est ça ?
Comme le centre a ouvert, mais qui laisse rentrer 30, 40 personnes par jour, 50, et qu'il y a des milliers de gens, ils sont installés en camp en bas. Donc depuis, en fait, le camp a été évacué.
Donc c'est à la plaine Saint-Denis, hein, c'est ça ?
C'est à la plaine Saint-Denis, oui. Donc à 500 mètres de ce camp. De ce centre, pardon. Ce qu'on a compris depuis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de camp, en fait. S'il y a un camp, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de camp, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, c'est l'impression que ça nous donne, nous, en tant qu'habitants de ces quartiers. Nous, on voit des gens qui errent, beaucoup de mineurs. Mais la consigne, c'est qu'il y a manifestement, c'est qu'ils ne se regroupent pas, parce que s'ils se regroupent, c'est visible, ça ne fait pas propre, et ça veut dire que tout n'est pas réglé. Voilà. Donc nous, on essaye de faire ce qu'on peut, parce que c'est des gens qui sont dans des situations vraiment très difficiles, qu'on fait des dizaines de milliers de kilomètres, qui sont des réfugiés, qui fuient. Tous les gens qu'on voit, c'est quand même des Afghans, des Érythréens, des Soudanais, à 95%, c'est-à-dire des gens qui fuient des guerres. Et de toute façon, ils sont tous partis jamais pour le plaisir, quoi. Et ils sont dans des situations très difficiles. Donc rien que le fait d'être là, de montrer notre solidarité, notre humanité, c'est important. Voilà. Et puis ce qui est super, c'est qu'on est nombreux à réagir. Et
à pallier une déficience de l'État, c'est ça ? Un refus d'accueillir, un manque d'hospitalité ?
Ben oui, c'est ce qu'on constate. C'est vrai que quand on donne les petits déjeuners, par exemple, maintenant, de plus en plus, on va les donner dans des endroits où les gens, ils dorment. Quand on les a laissés dormir, ils dorment à même la boue, etc. Et là, les gens me regardent, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, et puis ils me disent « French people is good, French people good ». Et on a un petit peu honte quand on nous dit ça, parce que les conditions sont tellement horribles et l'accueil est tellement horrible que on a plutôt honte. Mais oui, on pallie ce qui n'est pas fait au niveau de l'État. Et c'est vrai qu'on comprend pas. On a les moyens d'accueillir. Il y a des périodes où on a accueilli autant que ça, etc. Il n'y a pas de raison de retrouver ces gens dans des conditions aussi terribles et que ce soit à nous de le faire. Alors nous, on le fait parce qu'on a envie de prendre nos responsabilités, en fait. Mais on aimerait bien que ce soit pris en charge par les collectivités, par la mairie de Paris, par la mairie de Saint-Denis et surtout par l'État, oui. Voilà. Mais en attendant, nous, on fait ce qu'on croit devoir faire. Voilà.
La rue. Après plusieurs jours de queue, menacé par les forces de l'ordre, tu accèdes à la bulle, tu as un entretien. Lance les dés. Père, tu accèdes à la halle. Impair, tu retournes en case 14.
Hashtag comme un bruit.
Face à l'arbitraire, réagissons pour un parcours du non-accueil grandeur nature. Liberté de circulation et d'installation, des papiers et des logements pour tous. L'intercollectif parisien de soutien aux migrants et migrantes appellent à une nouvelle action militante.
Lance les dés.
Et donc il y a un jeu de loi ou de la loi du non-accueil qui est organisé ce soir, hein, c'est ça ?
Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir, c'est vraiment un prétexte, c'est de pouvoir un peu, d'une manière un peu ludique, symboliser le parcours que peuvent rencontrer les exilés en France avec la case centre de rétention, la case dormir à la rue, la case matraquage, la case rafle, la case Pierre-Henri, directeur de France Terre d'Asile, qui va décider au faciès de qui est mineur et qui ne l'est pas, comme il a pu le faire à Calais. Voilà, donc d'une manière un peu ludique, de symboliser un peu toutes les violences et tout le parcours complexe que vont avoir à faire les personnes jusqu'à l'obtention ou non d'un statut de réfugié. Et puis, c'est vraiment le prétexte pour rencontrer les gens, donner de l'information juridique et alerter un peu la population sur les violences qui sont imposées aujourd'hui aux personnes migrantes à la rue en France.
Alors c'est le collectif parisien de soutien aux exilés, c'est ça ?
C'est l'intercollectif parisien de soutien aux exilés, puisque nous sommes très très vastes et nous ambitionnons de couvrir tout Paris. Non, l'idée c'est qu'en fait, il y avait à la fois des collectifs de quartier, comme le collectif La Chapelle Debout, qui s'était mobilisé autour des campements de Stalingrad, collectif 5e, 13e, qui avait été mobilisé au niveau d'Austerlitz, et puis des syndicats, moi je suis syndicaliste par exemple, qui se mobilisaient sur ces questions-là, et on n'avait pas de cadre, on se retrouvait pour discuter d'une manifestation, de choses comme ça, mais on n'avait pas de cadre de travail durable. Ça part de la volonté des gens qui sont sur le terrain de se coordonner et d'avoir un discours politique, parce que très vite, quand on est sur le terrain, confronté à l'urgence, la solution, l'urgence, elle est tellement importante et vitale qu'on va être dans le fait d'apporter des couvertures, de résister aux rafles policières, de pouvoir aider, voilà, quelque chose dans une immédiateté, de faire un accompagnement.
Limiter les dégâts, quoi, c'est ça,
limiter
dans la gestion
les dégâts,
de l'urgence.
Et on l'est tous. Et en fait, le cadre de l'intercollectif nous donne aussi un cadre politique où repenser. Pourquoi on n'accepte pas ça et quelles propositions politiques on peut faire et quel discours politique on a à tenir face aux politiques qui sont mises en place aujourd'hui au niveau du non-accueil. On est devant un centre, on nous a dit que c'était un centre d'orientation, mais on considère que plutôt que c'est un centre de tri, et la mairie de Paris, derrière son discours humanitaire et « je ne suis pas comme le gouvernement, moi j'accueille les migrants », en fait, fait le boulot du gouvernement et de la police en offrant 3 nuits d'hébergement et en faisant le tri entre le bon migrant, le mauvais migrant, celui qui bénéficierait d'un accompagnement, celui qui n'en bénéficierait pas. Donc on est un peu remonté contre ce discours de façade, puisque si on est dubliné, donc si on a déposé des empreintes dans un autre pays, on est orienté vers des centres spécifiques. Et si par exemple il y avait un peu plus d'argent qui était mis dans un accueil digne, plutôt que dans les CRS qui nous ont été envoyés pour nous encadrer du 1er août au 30 octobre, et bien peut-être qu'il y aurait un petit peu d'argent pour accueillir dignement ces gens-là.
L'accueil digne, c'est un endroit où dormir qui n'est pas devant le campement la nuit, dans les spas de rentrée et l'ombre.
Ils ont changé les modalités, si j'ai bien compris. Non, ils donnent des rendez-vous tous les lundis matin, c'est ça ?
C'est ça. Alors là, ils sont en train de mettre en place un système de tickets. Bon, bah, on va se retrouver avec ce qu'il y avait devant France Terre d'Asile à la PADA. Hein. C'est pour ça qu'il y avait eu des campements à la Villette.
C'est déplacé le problème, invisibilisé pendant un certain temps, c'est ça ?
C'est déplacé le problème. Par contre, on empêche désormais les gens de s'installer. C'est-à-dire qu'ils sont pourchassés en permanence. En fait, la police interdit aux gens de s'asseoir et les pourchasse. Il y a des grilles partout dans Paris. Donc effectivement, on n'a plus de campement à Paris. Mais c'est pas parce qu'on n'a plus de migrants qui dorment à la rue. C'est parce qu'on les empêche de s'asseoir. C'est parce qu'on leur vole leur tente. C'est parce qu'on leur vole leur couverture.
Et là, ça consiste en quoi alors le jeu de la loi du non-accueil ?
En fait, on fait comme un jeu de loi et on lance le dé et puis on tombe sur une case. Alors, en fonction de la case sur laquelle on tombe,
Alors c'est des petits panneaux en carton.
On a la case centre de rétention.
D'accord.
Tu viens d'être placé en centre de rétention. Tu passes 3 tours. Lance les dés. Père, tu es libéré. Tu reprends ton parcours. Rendez-vous à la case 4. Impair, les juges autorisent ta rétention et ton expulsion. Rendez-vous à l'aéroport.
Ah là, c'est pas de chance là. Hein.
C'est pas de chance.
Alors on tire une deuxième carte parce que là vraiment.
Carte.
Y a pas des jokers y a pas...
Si, il y a des jokers.
Un peu d'humanité quand même, non ?
Alors, voilà. Intercollectif.
Ah, intercollectif. Ah ben voilà, ça c'est
voilà,
vous,
c'est
ça,
formidable. Ouais. Tu rencontres des militants qui luttent pour la liberté de circulation et d'installation. Ils te filent des coups de main, te donnent des infos juridiques, t'aident à faire des recours, ils tentent de faire avancer les lois. Tu relances les dés immédiatement.
Bon allez, on relance les dés alors.
Voilà.
Et là, Dublin.
On a pris de force tes empreintes dans un autre pays de l'Union européenne. L'État français prend tes empreintes et découvre cela. Lance les dés. Père, tu es dubliné. Tu nous quittes. Mais peut-être seras-tu là pour une prochaine partie. Impair, tu continues à jouer, mais tu gardes cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Lance les dés.
Je suis Michel Agier, je suis anthropologue à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'Institut de recherche pour le développement. Et depuis le mois d'avril 2016, je dirige un programme de recherche et d'intervention qui s'appelle Babels, qui est sur le thème des villes frontières, la ville et la frontière, les villes comme frontières. Ce que les migrants font aux villes, ce que les villes font aux migrants.
Michel Agier, vous travaillez sur la question donc, de l'hospitalité. Il y a beaucoup de polémiques sur ce centre humanitaire Paris-Nord qui vient d'ouvrir il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Vous pensez quoi de cette façon d'accueillir? Est-ce que les moyens mis en place sont suffisants, sont dignes pour ces populations qui viennent en France, qui passent en France?
C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'effectivement, au début, il a été question pour Anne Hidalgo, pour l'équipe municipale, de faire un peu comme ce qui avait été fait à Grande-Synthe, c'est-à-dire de faire ce qui a été appelé un camp humanitaire, je crois. Bon, effectivement, à Grande-Synthe, il y avait la volonté du maire de la ville de faire exactement l'opposé de ce qui se faisait à Calais, c'est-à-dire qu'à Calais, la mairie désignait les migrants comme étant des ennemis, des menaces, etc. Et à Grande-Synthe, le maire, lui, a dit « sur ma commune, personne ne doit mourir de faim et de froid ». Et je crois que c'est un petit peu ça l'idée qu'a voulu reprendre Anne Hidalgo dans un premier temps. Et puis on est en France et donc le pouvoir de l'État est considérable et on peut se poser des questions. Et moi je me les pose dans ce séminaire et ces recherches sur la question de l'hospitalité. C'est la relation entre les villes et l'État à propos d'hospitalité. Mais de ce point de vue-là, on voit bien que le site qui a été installé au nord de Paris, finalement, n'a donc aucune autonomie, ne représente aucune autonomie municipale du point de vue de son fonctionnement. Il a été d'emblée inclus dans le dispositif de la réception, de l'enregistrement, de l'accueil. On a le même processus que ce qui s'est passé déjà depuis plusieurs mois, en Grèce, à Moria, avec le camp, avec le hotspot, le centre de réception, sélection, triage des migrants, et puis autour des campements, d'autres centres mis en place par les ONG pour rendre l'attente un peu plus supportable. On a eu ça aussi à Idoménie, à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, et on a ça un petit peu partout, c'est-à-dire des dispositifs publics qui établissent des camps ou des centres administratifs de réception, hébergement en partie, et autour, parce que le système est complètement bloqué, parce qu'il n'y a pas au fond de volonté d'accueillir et de permettre de fluidifier un petit peu le dispositif, parce qu'il n'y a pas cette volonté-là, et il y a inévitablement des campements qui se développent. Ce qui fait ressembler ce site, je dirais, de Paris, la Chapelle, Paris-Nord, à ces hotspots, c'est le fait que ça a été intégré tout de suite dans le circuit de la vérification, de l'enregistrement, du tri et de l'expulsion, puisque finalement les gens peuvent se retrouver, comme on dit, dublinés, c'est-à-dire renvoyés dans le premier pays dans lequel ils sont arrivés en Europe. Ils peuvent se retrouver dans un centre de rétention, comme ils peuvent pour certains, mais on n'en est pas sûr. On a à peu près des taux aujourd'hui d'environ 30% se reconnaître le droit à l'asile. Donc, de fait, ce site-là, avec aussi la limitation dans le temps de l'accueil entre 5 à 10 jours. Donc voilà, il faut que ça tourne, il faut que ça tourne. Simplement, on n'a pas les moyens de faire que ça tourne, ça tourne. Et là, il y a un problème, je pense, et je sais très bien, et nous savons, tout le monde sait très bien, pour des raisons diverses, politiques, qu'Anne Hidalgo n'est pas forcément sur les mêmes postures que le gouvernement, mais il n'empêche que ce système-là, à moi, me semble pris dans le dispositif contrôlé par l'administration centrale, par l'État. Et donc, on ne peut pas parler d'un centre humanitaire.
Un jour, tu verras, on se rencontrera.
Les migrants qui arrivent sur le territoire pourront se poser, bénéficier d'un bilan médical, bénéficier aussi d'une aide psychologique et bien sûr tout de suite d'un travail et d'un conseil sur leur situation et ce à quoi ils peuvent prétendre. Nous allons relever un défi qualitatif, bien sûr, Mais nous allons relever aussi un défi quantitatif, puisque nous aurons 400 lits sur le site au nord de Paris à son ouverture. Un chiffre qui sera porté à 600 places d'ici la fin de l'année. Si d'autres centres de mise à l'abri temporaires doivent être créés, nous le ferons bien sûr si nécessaire.
Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
Là, il y a les barrières qui sont fixées au sol, les barrières de sécurité qui sont fixées au sol et qui amènent jusqu'à devant la porte donc, de la bulle, le portail en fer. Et là, on enlève les chaînes qui bloquent l'entrée au bout de la file d'attente, l'entrée de la bulle. Where you come from?
Afghanistan.
Afghanistan.
And you?
Paris.
Radio.
National Radio. I want to understand what's
Vous
happening.
Vous parlez français?
Oui, je parle français.
Bah alors on parle français, c'est bon.
Formidable.
Moi, je suis bénévole. Bah, quand même, je suis réfugié aussi, je suis bénévole aussi. Français, permanence, permanence sociale, aider les gens sur papier, situation, de tout. Parce que ça fait un an que je suis en France, ça fait un an et demi que moi, déjà, j'étais dans cette situation. Et je connais un petit peu, je sais que, comment ça se passe. Maintenant, ça y est, c'est fini. Mon réponse, moi, j'ai reçu mon papier. Ça va. Maintenant, je suis réfugié en France.
Alors, vous, maintenant, vous avez obtenu le statut de réfugié.
Voilà.
Et vous revenez pour aider les autres exilés
aussi,
qui arrivent.
Déjà, quand je n'ai pas reçu mon réfugié statut aussi, j'ai aidé les gens et maintenant aussi, j'ai aidé les gens. Je travaille et j'aide les gens aussi quand même. Parce que moi aussi, un jour, j'étais dans cette situation, j'ai besoin d'aide, que les gens m'ont aidé et maintenant, j'aide les gens.
Là, j'ai rencontré donc des jeunes Afghans, là, enfin jeunes qui avaient 22 ans, à peine plus jeunes que vous, quoi. Et qui me disait qu'il dormait depuis 20 jours sous le pont là-bas, sous le pont du...
Bah oui, il y en a qui depuis 20 jours, il y en a depuis 6 mois, il y en a depuis 3 mois, il y en a depuis un an que je connais, ils dorment dans la rue comme ça. Ils n'ont pas d'autre choix, c'est difficile pour les gens.
Mais ça veut dire qu'ils n'ont jamais réussi à être accueillis à la bulle et d'être pris en charge?
Bah si, il y en a qui s'en étaient là-bas et bah, après quand ils sont envoyés d'autres, par exemple un petit village ou une petite campagne, que là-bas ils n'ont trouvé rien, jamais ils ne trouvent pas un cours de français, juste qu'ils dorment là-bas. Bah. Parce D'accord. que quand même vous, quand vous allez dans une campagne, que vous ne trouvez rien chose pour faire, bah, alors
dans
vous
un
faites
village,
quoi?
C'est ça, dans
dans
un
petit village. Si vous trouvez rien chose, après vous faites quoi là-bas? Vous restez là-bas ou là? Non. Il faut que vous retournez pour vous faire vivre ou quoi? Il faut que vous tournez ou trouvez un travail ou trouver un endroit pour vivre, non? Les réfugiés, ils ne sont pas venus en France pour dormir ou quoi? Ils sont venus ici
pour dormir, oui.
Ben non, ils ne sont pas venus ici pour dormir, ils sont venus ici pour ouvrir un nouveau futur ou quoi? Ils ne sont pas intéressants pour dormir, juste dormir là-bas. Ils sont pas dormir dans la rue ici aussi, non, quand même.
Ils préfèrent dormir dans la rue ici.
Bah oui, parce qu'ici, peut-être il y a chose, peut-être il y a une communauté avec la jeune, il y a une communauté avec soutien, bénévole, qui sont faits comme ça, ils sont trouvés des amis ou quoi.
Oui, pour se créer un avenir, un nouveau
voilà.
futur.
Ouais, un nouveau vivre ou quoi.
Bah, une nouvelle vie. Ouais.
Voilà, une nouvelle vie. Là-bas, il n'y a rien de chose, juste dormir, il n'y a rien de chose.
Pourtant, elles ont des attraits, nos belles régions, mais c'est vrai que pour travailler...
Parce qu'ils sont pas vraiment en mode touriste, les exilés. Et les villages, c'est pas la ville. En plus de la mobilisation sociale et politique des différents collectifs parisiens, Chapelle Debout, Chapelle en Lutte, Wilson, Paris Exil, Le BAM et j'en oublie, il faut saluer aussi la production de connaissances collectives du programme Babels, piloté par Michel Agier, ce que les villes font aux migrants, ce que les migrants font aux villes.
Et d'un bout à l'autre de la politique d'accueil à la française, on quitte la ville où nous étions avec Antoine Chao pour aller dans le Loiret avec Guy Vanctil dans un petit village où sont accueillis les migrants évacués de Calais.
Oui, car la semaine dernière, Charlotte, tu nous avais emmené écouter les voix du front dans le Gard, tout empêtré dans les fantasmes de grands remplacements. Alors cette semaine, nous avons voulu écouter une autre voix, face au réel cette fois, celle de Ghislaine Baudet, maire d'un petit village du Loiret, Pierre Fitesbois et ses 290 habitants, où l'arrivée depuis novembre 2015 de demandeurs d'asile fait beaucoup jaser. Dans ce coin tranquille, de la France rurale, où on a voté à plus de 52% pour le FN au départemental, une trentaine de mineurs isolés sont aujourd'hui hébergés dans une colonie de vacances autrement inoccupée. Et chez les Pierrefittois, qui ne sont ni très nombreux ni très causants, les rumeurs n'ont cessé de se propager. Car si beaucoup ont voulu croire un joyeux conte de Noël, de l'arrivée sans encombre de migrants sur une terre Front National, la mère du village, elle, se bat chaque jour pour assumer son choix malgré le storytelling fantasmé. Car ce n'est finalement pas tellement à cause des migrants qu'on vote ici pour le FN. Alors jusqu'à 17h sur France Inter, petite piqûre de rappel, le village, la mère et les migrants.
Merci beaucoup.
C'est moi.
Et dites-moi, pour aller vers Pierrefitte.
Pierrefitte, il faut prendre là. Et puis prenez un petit peu à gauche et après à droite là. C'est marqué Pierrefitte.
D'accord. C'est là-bas où il y a les migrants là, c'est ça?
Ouais, c'est là-bas. Ouais.
Ça fait beaucoup d'histoires ou pas?
Ça fait des histoires, oui.
Ah bon?
Ah oui, les gens n'aiment pas les migrants. Les gens n'aiment pas les migrants. Ouais. Après, c'est la vie. Hein. Je suis pas là pour...
Pas là pour?
Je suis pas là pour dire ce que pensent les gens. Vous faites quoi, vous?
Moi, ouais, je travaille à la radio.
À la radio?
Ouais. Et puis là, il y avait eu des articles il y a quelques mois en disant l'arrivée des migrants fait reculer le FN.
Ah non, l'arrivée des migrants fait pas reculer le FN.
Bon, allez.
Bah voilà.
Bonne journée, madame, au revoir.
Au revoir, merci.
Merci.
Maintenant à Pierrefitte-Esbois dans le Loiret, l'une des communes qui a décidé d'accueillir des réfugiés de Calais il y a tout juste un an. Pourtant,
et
les conditions de départ ne sont pas
réunies.
La moitié des habitants ont voté Front National aux dernières élections départementales et régionales.
Pas dur à trouver, il y a deux rues. Place de la Liberté.
Dans ce petit bourg de seulement deux rues, 300 habitants et une centaine de migrants accueillis depuis un an dans un ancien centre de vacances au cœur du village. Mais malgré les très bons scores du FN, 52% au départemental, 42% au régional.
C'est un de ces petits villages tranquilles que vous n'avez probablement jamais vu, mais que vous connaissez déjà. La départementale. Un tracteur passe de temps en temps. Voilà. La vieille église du village où on se retrouve guère plus que pour la messe de Noël et quelques messes d'enterrement. Et personne dans les rues. Parfois un chien qui aboie. Mais sauf qu'ici, il y a un élément en plus. Ce sont les migrants qui sont arrivés. Est-ce que je peux vous poser quelques questions, deux minutes, avec le micro?
Non.
J'essaie une autre fenêtre. Apparemment, les volets ne sont pas fermés. Il y a quelqu'un? Bonjour. C'est pour France Inter. Bonjour, il y a quelqu'un? Une grande porte de grange aussi. J'essaye, au hasard. Bonjour, je voulais savoir ce que... Là, il y a quelques chèvres et quelques poules qui me dévisagent. Le ruisseau. Qui est encore pris dans les glaces. Ouverture de la mairie. Madame Ghislaine Bollet, maire, de 8h30 à 12h30. Allez, on rentre, on va se mettre au chaud là.
D'accord.
Bonjour.
Bonjour.
Je me suis garé derrière, c'est bien?
Oui, vous avez très bien fait.
Bon.
On peut s'installer dans mon bureau ou dans une
Que bah,
c'est peut-être là où il fera le plus chaud.
Ah bah, je suis d'accord. Alors, il fait moins 3 là.
Vous n'avez pas eu chaud sur la
route. Je vous suis, hein.
Voilà. Ici, c'est la salle des mariages. Des mariages, on n'est pas souvent.
Et puis des petites photos noir et blanc, des cartes postales.
Du début du siècle dernier.
Pierre Fitez-Bois. Et puis surtout, on voit beaucoup de gens dans la rue. Quoi. C'était l'époque où ces villages étaient encore vivants.
Au début du siècle dernier, il y avait plus de 1000 habitants, hein, Pierre Fit. C'est plus tout à fait la même chose.
Et la Marianne qui veille.
Ah ben Marianne veille. C'est
ah mais c'est laquelle?
C'est Brigitte Bardot.
C'est la Brigitte Bardot. Ouais. C'est un collector maintenant. C'est... bah, depuis, il y a eu Mireille Mathieu, Laetitia Casta.
Évitez. Excusez-moi.
Marianne, allégorie de la liberté, depuis plus de 100 ans, elle incarne la République, avec une petite révolution en 1969.
Marianne Bardot.
Pour la première fois, une célébrité lui prête son visage.
Tu veux ou tu veux pas?
Ah ben moi je veux bien.
J'aime beaucoup Marine.
Brigitte Bardot.
C'est la seule femme, mais elle a une paire de couilles.
Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je suis Ghislaine Baudet, je suis maire de Pierrefitte-Esbois depuis 2014.
On dit comment? Pierrefittois?
Oui, on dit des Pierrefittois. Ouais. Et je suis revenue à Pierrefitte pour passer ma retraite.
Et à l'occasion de votre retraite, voilà que vous vous engagez pour le village. Combien d'habitants ici?
299 depuis le dernier recensement.
Petit village tranquille. Pas désert, parce qu'il y a encore une classe.
Oui, il a fallu se battre, mais chaque année, on tremble un peu.
Et voilà que donc ce petit village tranquille est tombé sous les feux de l'actualité.
Ah oui, mais alors, moi, je n'avais pas du tout pensé que ce serait aussi agité. Ça a peut-être commencé par le fait qu'on a fait partie des villages qui ont reçu les premiers migrants de Calais, fin octobre 2015. Au départ, on nous avait dit que nous aurions des familles. Donc, puisqu'on vient de parler de l'école, c'était très alléchant. On s'était dit que s'il y avait des petits Syriens, ce serait bien, quoi. On n'a pas eu de petits Syriens.
Vous avez quoi, alors?
Ben, on a eu des adultes. Le premier groupe qui est arrivé, 23 Soudanais, et il y avait un Syrien, ça, je m'en souviens très bien, et il devait y avoir un Érythréen. Et franchement, des gens très agréables, très polis, très reconnaissants. Ils sortaient dans le village, ils étaient toujours gays, ils disaient toujours bonjour à tout le monde, etc.
Oui, ça devait détonner dans le village.
Et ce qui fait qu'il y a des gens qui m'ont dit « tu t'es bien fait avoir hein. », ce qui pour nous ne changeait rien en fait. Mis à part le petit plus qu'auraient pu être les enfants à l'école et puis des familles. Je pense que des familles avec des enfants peuvent attendrir aussi les gens, enfin, alors que des adultes, hommes, ça n'attendrit personne, je crois.
Le 27 octobre dernier, la commune de Pierrefitte-Esbois accueillait 27 réfugiés, soudanais et syriens, en provenance de la jungle de Calais. Aujourd'hui, ils sont encore 11 en demande d'asile, soutenus par des bénévoles.
C'est dans ce centre qu'ils vont faire leur première démarche afin d'obtenir le statut de réfugié. Des bénévoles viennent donner des cours de français. Très assidus, ils font leur devoir d'écriture. Leur futur, ils le voient donc en France, avec l'espoir de faire venir leur famille.
Et alors, parlez-moi de vos administrés aussi. Parce que c'est là où ça devient politique.
C'est là où ça devient politique, oui.
Parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que aux dernières élections, vos administrés ont voté massivement, plus de 52% pour le Front National.
Oui.
Vous êtes sans étiquette?
Je suis absolument sans étiquette. Dans un village comme le nôtre, on est trop peu et tout le monde, oui, on connaît des gens et on ne pourrait pas faire des élections politiques, c'est impossible. Donc on a été obligé de faire une réunion publique aussi avant leur arrivée parce que le buzz était parti. Et
qu'est-ce qu'ils se disaient?
Bah, il se disait qu'il allait y avoir des migrants, qu'il serait beaucoup, des Arabes, donc voilà, enfin, c'était parti comme ça. Vous voyez, si j'allais faire des courses et que je rencontrais quelqu'un qui connaissait bien Pierrefitte, on me disait « t'as pas trop de mal avec tes hommes, là ?» Et je disais « non, jusque-là, j'ai pas trop de mal. » C'était vraiment, on avait l'impression que ça ne pouvait que mal se passer. Oh, oui, beaucoup d'a priori. Terrible, terrible.
À droite, certains participants affichent de manière tranchée leurs convictions sur ce débat.
Je pense qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer.
Par qui? Par quoi?
Par qui? Par quoi? Il y a déjà 10 millions. Hein? Mais il faut bien réfléchir.
Ça jase, on a fait le hala dans le village. Que vois-je? La Gaule est envahie par les sauvages. Outrage,
On a fait criser tout le voisinage en sortant les derbogas dans la salle de mariage. Ils ont la rage de voir nos tronches dans les parages. On a sali la moquette, les murs et le carrelage. Semé la zizanie, foutu le feu à leur étage. Salopé leur paysage, on leur a fait un petit carnage. Mais là c'est trop tard, on a passé la douane. On a passé la frontière, reprend à Doliprane. On a planté la tente, maintenant faudra s'y faire. Les nègres vous emmerdent comme dirait M. Césaire. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
J'aime beaucoup Marine.
Alors on ouvre le rideau de la mairie. Ouf, il fait froid.
Alors voilà notre église qui est du 12e siècle. L'autre partie est du 16e.
Je ne voudrais pas dire, mais votre église, sans vouloir vous vexer, le clocher, il est un peu de travers, non?
Oui, mais il a toujours été de travers. C'est un parti pris de construction, m'a-t-on dit. Moi, je répète. Hein. Mais là, je crois que le parti pris de construction s'accentue. Là, nous arrivons devant le CAO. Voilà.
Centre de vacances, Roland de Mercier. Voilà. Face à l'église. Ouais.
Et ça va très loin. Ça va... Vous voyez les bâtiments, là? C'est-à-dire qu'il y a aussi des dortoirs, là. Mais...
Alors, on ne peut pas rentrer parce qu'il faut des autorisations particulières. Bah, oui, en ce moment, c'est fermé.
Oui, ce sont des mineurs, donc, qui tiennent à ce que la presse ne soit pas très présente, quoi.
Village tranquille, paisible, hein. On ne voit pas beaucoup de monde. Hein.
Non, non, surtout par ce temps.
Il y a un tracteur qui passe, quand même.
Oui, 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 y a ben ça, oui.
Petit hochement de tête sans le passant.
Oui, bah oui.
Vous vous dites nos invités, pour appeler les migrants.
Ce sont nos invités. Oui. C'est des invités de la France, puisqu'on ne les a pas mis dehors, et de Pierrefitte, puisqu'on les accueille.
Oui, vous me disiez, par contre, ces invités, des fois, c'est pas si facile que ça. Avec le vote qui s'est exprimé pour le Front National, il y a des tensions ou sinon des fantasmes.
Oui, des fantasmes, bien sûr. Par des gens qui m'ont dit, mais alors, attends, on m'a dit qu'il y avait eu des vols chez des gens. T'as su ça? Ben non, j'ai pas su ça, de quoi tu me parles? Ben moi, un tel m'a dit que... Bon, alors une fois, deux fois, trois fois, et puis après, qu'ils rentraient dans les propriétés, des choses... qui n'avait ni sens ni raison, en fait. Ouais. On a été obligé de demander à La République de nous publier un article disant que...
La République du Centre, ça c'est le journal?
Oui, parce qu'on entendait que, par exemple, ils allaient chez...
On nous klaxonne.
Une de mes voisines. Qu'est-ce que je disais?
Oui, bah, qu'il y a eu des crispations, des voix qui sont élevées.
C'est-à-dire qu'il y a eu des bruits absolument stupides disant qu'ils violaient les filles, ben oui.
Ah bon?
Enfin non, c'était un faux bruit. On a eu quelqu'un qui a dit, mais vous rendez compte, les personnes âgées, vous pouvez bien comprendre qu'elles vont avoir peur, mais avoir peur de quoi? Alors j'ai mon adjointe qui a dit, vous savez où elles étaient les personnes âgées en 40? Elles étaient sur les routes. Et là, elles voulaient bien se faire accueillir. Et il y a eu un espèce de silence et quelqu'un, enfin la même personne a dit, oh, mais c'est pas pareil. C'est rigolo, non?
Oui, enfin, si on
c'est,
veut.
C'est rigolo, non? Mais je veux dire, c'était bienvenu, en tout cas. Oui, oui.
Surtout quand on voit justement que derrière l'angélisme d'histoire, de storytelling, on appelle ça en termes médiatiques, c'est une belle histoire accrocheuse du petit village, des lecteurs majoritairement lepénistes, qui tout d'un coup s'ouvrent avec l'arrivée des migrants. Vous me peignez une réalité beaucoup plus grise, enfin,
je sais pas, mais
ambiguë, en tout cas.
En tout cas réaliste.
De tension, d'une France qui a peur.
Une France qui a peur, oui. Ça, c'est clair, pour le coup. Vous savez, la peur de l'autre. Ce qu'on ne connaît pas fait peur, forcément. Le bandeau était là.
Ah, c'est quoi, là? Vous voyez? Voilà un magasin, quand même. Il y a une activité.
Une activité, un traiteur, oui. Ouais. Il y avait le bandeau du FN, vous savez, le bandeau qui dit 100% FN, 0% migrants.
100% national, 0% migrant. Oui, alors là, c'est un jet de pierre du centre d'accueil des migrants.
Ah, voilà. Ouais. Mais bon.
Mais comment ça se fait qu'il vous ait élu alors, ces électeurs qui ont voté par ailleurs majoritairement Front National?
Faudrait leur demander à eux. Je sais pas, ils n'avaient pas dû savoir qui j'étais ou alors...
Ils se sont trompés.
Un petit peu, oui. Mais vous savez, moi j'ai été tout à fait passionnée dans ma vie par la guerre civile espagnole. Et donc, moi, le mauvais accueil donné aux républicains espagnols, pour moi, ça a toujours été une interrogation. Qu'on les ait si mal accueillis, qu'on les a si mal traités, m'était incompréhensible. Ben voilà, ça y est, j'ai compris.
Voilà. Vous ne vouliez pas refaire la même erreur qu'avait fait la République, qui avait mis dans des camps des réfugiés près de la frontière, dans le Languedoc.
Il y en a eu plusieurs qui étaient abominables, hein, vraiment. Et moi, je ne me serais pas vue ne pas les accueillir. Ce n'est pas possible.
Et en tant qu'élu, vous vous sentez une mission de faire accepter, de faire comprendre et de faire une place à ces gens-là. Et de le faire comprendre à vos concitoyens.
Ben oui, de le faire comprendre, parce que quel mal y a-t-il à les accueillir? Enfin, dans la mesure où eux, ce dont ils rêvent, c'est de repartir chez eux quand il y aura la paix. Ouais. C'est ça quand même qu'il faut faire comprendre, c'est que ce sont des victimes.
Pierre-Fitte S. Bois, la moitié des habitants ont voté Front National aux dernières élections départementales et régionales. Dans ce petit bourg, 300 habitants et une centaine de migrants accueillis depuis un an dans un ancien centre de vacances au cœur du village.
Ce sont des mineurs isolés, vous ne verrez pas leur visage.
Des voisins qui ont même organisé un tournoi de foot leur donnent des cours de français et ont fait visiter la région. Ce qui a fait réfléchir Bernard, ancien électeur frontiste qui ne votera pas pour Marine Le Pen à la présidentielle.
Les gens sont reclus sur eux-mêmes et ils ont peur de l'étranger. Moi j'irai voter, mais pas pour le FN.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Est-ce que je peux vous embêter deux secondes? Je travaille à la radio.
Tiens.
C'est pas la bonne.
Inter, tu viens par ici.
Ouais, exactement.
Et pourquoi?
Parce que j'ai entendu un reportage qui expliquait que c'était un village où on votait FN, mais où l'arrivée de migrants avait changé les mentalités.
Oh, effectivement, la tendance ici, c'est FN. Aux élections normales, quoi, municipales. Alors là, non, j'ai pas entendu dire que ça avait changé de la donne. Hein. Non, non.
Bon, en tout cas, merci.
Bon, je vous en prie. Hein.
Au revoir.
Ah. Mais vous parliez de la peur comme principal moteur. Elle vient d'où cette peur, d'après vous?
Dans le vote national, je me suis beaucoup posé la question. Je pense qu'elle vient du fait que c'est plus très facile de trouver du travail pour un grand nombre de gens. Surtout dans nos campagnes.
Parce que près d'ici, il n'y a pas d'usine?
Ben, il n'y en a pas beaucoup.
Il y a un peu d'emploi de service.
Il y a beaucoup de jeunes femmes qui travaillent en étant aide à domicile et qui font les caissières ou qui travaillent dans des grands magasins, etc.
Donc souvent précaires aussi.
Précaires. Et puis, je pense que ça vient aussi de quelque chose d'un peu au-dessus, c'est-à-dire on est un peu abandonné dans le domaine médical.
Hein, désertification. Des campagnes.
Voilà, et pas que dans les soins. La trésorerie de Briard, maintenant, il faut aller à Gien. Voyons-nous, de plus en plus, on nous éloigne de tout ce dont on peut avoir besoin. Pour...
C'est-à-dire que les services publics reculent.
Il n'y a presque plus de bureaux de poste alentour. Hein. Et je pense que tout ça influe beaucoup sur la population. Ça angoisse les gens d'entendre tout ça.
Surtout dans des coins où il ne se passe rien, comme à peu près ici.
Surtout dans des coins où il
ne se passe chose.
Rien. Voilà. Et tout ça, c'est monté quand même en épingle. Et puis, je ne vais pas vous raconter ce qu'est le populisme. Hein. Donc, quand on vous raconte qu'après, on va raser gratis, ça attire.
Essayer autre chose, au moins eux, on n'a pas essayé.
Voilà, exactement.
C'est pour ça que vous me dites que le vote FN ici, il n'est pas nécessairement dirigé contre les immigrés, puisqu'il n'y en a pas. Ou peu.
Oh ben oui, nous, dans nos habitants, il y en a combien? 4, quoi. Enfin, on compte bien. Oui, ça n'a pas de sens ici.
Mais l'insécurité économique engendre l'insécurité sociale,
totalement,
qui engendre l'insécurité culturelle ou identitaire.
Tout à fait, tout à fait. On se rapproche quand même de plus en plus, si on connaît l'histoire, hein. Mais des années 30, le climat est celui des années 30, malheureusement. Regardez Trump.
Tout ça participe du climat anxiogène et de fin de système et de déréliction.
De fin de système, parce que moi j'entends des gens, honnêtement j'entends des gens qui disent « Ah, il faudrait quand même que Marine soit là ». Ah oui, ça va être tellement bien, on va être dans un royaume... Ce sera un conte de fées. Mais oui.
En attendant le conte de fées, merci à Ghislaine Baudet et aux habitants de Pierrefittaise-Bois et leur mairie où vous pouvez déposer vêtements chauds et chaussures d'hiver qui ne servent plus.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur les sites de France Inter, franceinter.fr. Vous pourrez vous abonner au podcast et n'hésitez pas à faire courir le bruit que le bruit court. Hashtag comme un bruit. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian et nous on se retrouve samedi prochain à 16h.